9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Alain Ruscio.
Oui, bonjour.
Bonjour, le plaisir de vous recevoir ce dimanche matin. Et nous allons parler de votre livre, Paris colonial et anticolonial. Promenade dans la capitale, une histoire de l'esclavage et de la colonisation. Tel est le long titre de votre ouvrage. Avant de parler du livre, nous allons parler de vous. Alain Ruscio, vous êtes historien, vous avez entamé des travaux sur le regard colonial depuis de longues années, hein, depuis quelques décennies même, on peut parler comme ça.
Oui,
vous, vous avez travaillé d'abord sur l'Indochine et depuis plus de 20 ans, vous travaillez sur l'histoire de l'Algérie et de ses répercussions dans la société française. On vous doit notamment de nombreux ouvrages tels Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OAS qui sont parus à la découverte, Les communistes et l'Algérie et d'autres livres encore. Et en tout cas, ce dernier livre est intéressant puisqu'il parle aussi de l'Algérie d'une certaine manière, puisque dans ce Paris colonial et anticolonial, on va retrouver une histoire de l'Algérie au travers des rues, des squares et des statues et puis des mémoires de ce passé colonial. Alors pour parler de ce Paris colonial et anticolonial, je vais rappeler Alain Ruscio, que vous êtes deux auteurs dans ce livre.
Nous fûmes deux, hélas.
Pardon ?
Nous fûmes deux, puisque
voilà,
Marcel...
Oui, mais plus. Mais n'oublions pas de parler de Marcel Dorigny, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui a participé avec vous à cet ouvrage très précieux et très fourni de ses adresses, de ses rues, de ses squares, de ses plaques et de ses statues aussi, qui sont des marqueurs de ce Paris colonial. Et lui a essentiellement travaillé sur la question de l'esclavage et comment vous avez peut-être parlez-nous de cette partie esclavage dans un
voilà donc dans un premier temps peut-être effectivement parler de la nature de nos relations avec Marcel Dorigny. Marcel Dorigny est un spécialiste reconnu de l'histoire de la colonisation, de la traite négrière, des Lumières, de l'anti-esclavagisme. Et comme je suis plutôt un spécialiste de ce qu'on a appelé la guerre la seconde colonisation, nos travaux étaient tout à fait complémentaires. Nous sommes devenus des amis très très proches. Et ce livre a été commencé par nous deux à quatre mains. Et hélas, Marcel Dorigny, en septembre 2022, est décédé. Donc j'ai évidemment voulu par fidélité à ce travail, également parce qu'il était déjà bien entrepris, l'achever. Alors effectivement, l'histoire de l'esclavage, pour répondre à votre question, figure ô combien dans ce livre, tout simplement parce qu'elle figure dans les murs de la capitale. Il y a énormément de traces, soit effectivement des statues. Alors on pense bien sûr à Colbert, qui est omniprésent dans l'espace public, qui est non pas le père du Code Noir, puisqu'il était décédé 2 ans avant la promulgation du Code Noir, mais en tout cas qui en était l'inspirateur principal. Et donc il y a bien sûr beaucoup de... Il y avait Place de la Contrescarpe, naguère, une peinture qui s'appelait Au Nègre Joyeux, qui aujourd'hui qui a été retiré et qui est aujourd'hui au musée Carnavalet, par exemple. Il y a la couverture de notre livre s'appelle Aux Planteurs. C'est dans une des rues de Paris où c'est une mosaïque esthétiquement très belle, mais évidemment tout à fait raciste.
Et elle est où, cette mosaïque?
Elle est rue des Francs-Bourgeois. Enfin, j'ai une petite hésitation parce que je passe pratiquement toutes les semaines devant, mais je connais pas forcément le. En tout cas, elle est répertoriée. Donc voilà, le planteur, ben voilà, c'est tout simplement un homme blanc assis qui est en train de déguster, semble-t-il, ce qui correspond à un apéritif.
C'est que l'esclave va lui apporter.
Et l'esclave lui apporte sur un plateau. L'esclave n'a qu'une sorte de short pour couvrir sa nudité. Et le planteur est tout à fait décontracté. Donc voilà, c'est une belle image, effectivement, de cet aspect des relations humaines ou inhumaines au temps de l'esclavage.
Alors, au temps de l'esclavage, il y avait il y a d'autres images qui sont dans ce Paris colonial. Il y a des noms de rues aussi.
Oui,
il y a la place des Antilles, mais qui après a été elle est plus contemporaine, la place des Antilles, on va dire comme ça, puisque c'est la visibilité des Antillais qui sont arrivés en France, en métropole. Mais donc il y a d'autres rues qui sont.
Oui, bien sûr. Il y a la rue de la Martinique, il y a la rue de la Guadeloupe, il y a la rue de la Guyane qui elle a été nommée beaucoup plus tard, puisque la Guyane avait la réputation horrible d'être le lieu des bagnes. Et donc il y a effectivement, et il y a des rues effectivement d'esclavagistes. Par exemple, il y a une rue L'Olive dans le 18e arrondissement, dans le quartier d'ailleurs dans lequel habitait Marcel d'Origny. La rue L'Olive, c'est L'apostrophe. Ce n'est pas le nom du fruit. Je crois que l'olive est un fruit, mais c'est le nom tout simplement de celui qui le premier a mis le pied sur la terre de la Martinique et qui donc a été en quelque sorte celui qui a ouvert la porte à la traite négrière par la suite. Donc il y a effectivement un certain nombre de noms comme ça. Il y a eu un exemple dans le passé, dans une quinzaine d'années, de débaptisation, c'était la rue Rochambeau, qui était lui véritablement celui qui a mené la guerre contre la population d'Haïti révoltée, et qui a été débaptisé et rebaptisé du nom du chevalier de Saint-Georges. Donc c'est tout à fait symbolique. Mais c'est un cas assez unique d'ailleurs.
Alors, vous rappelez dans votre livre que c'est 400 ans d'histoire qui portent ces rues de l'esclavage et ces rues coloniales. Qui va décider, entre guillemets, à l'époque, que ces rues parisiennes vont être nommées ainsi?
Eh bien, ce sont les autorités municipales.
C'est les autorités municipales, comme ça l'est encore aujourd'hui.
Alors évidemment, avec un droit de regard, j'imagine, avec le pouvoir étatique. Mais bon, il suffit de regarder la liste des nominations de rues de la toute première période, enfin jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale. Il n'y a que des noms de conquérants,
de héros,
de héros avec les guillemets nécessaires, oui. De conquérants de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Indochine, bien sûr, soit d'idéologues. Par exemple, il y a une rue Chaillébert, plus personne ne sait qui c'est, mais c'était un des grands idéologues de la colonisation et de la racialisation, de la notion de hiérarchie des races et de mission civilisatrice de la France. Il y a bien sûr un boulevard Jules Ferry. Jules Ferry qui a été l'homme qui, certes, pour certains, est l'homme qui a été le père de l'école publique, mais qui a également été le premier homme politique français à oser dire qu'il y avait des races inférieures à la tribune de la Chambre des députés, et que le devoir des races supérieures était de les civiliser. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du poids de l'idéologie coloniale qui est encore visible aujourd'hui pour l'œil du Parisien ou du touriste en général.
On reviendra dans une deuxième partie sur le rapport nom de rue ou place ou statut, à la fois pour l'ancrer de manière historique, mais aussi l'affirmer de manière politique. C'est ça qui est important, de dire qu'il y a histoire et politique dans ces noms de rue, encore aujourd'hui, mais on y reviendra dans une deuxième partie. Peut-être commencer à parler vous en avez déjà parlé, mais des noms de rue ou des espaces qui appartiennent au passé colonial de l'Algérie, de l'Afrique aussi, et du Maghreb en général, parce que là aussi... Après, nommer une rue de Kabylie, de Tlemcen, de Constantine ou d'autres rues, ou de Tunis, ou des rues de Dahomey, d'Afrique, c'est que des noms de rues, mais il y a aussi des personnalités, des figures de l'histoire, là.
Bien sûr, il y a des conquérants qui sont honorés. Par exemple, il y a aujourd'hui, dans le 12e arrondissement, une rue du général Lapérine. Qui était un des conquérants du Maghreb. Et sous la plaque, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, enfin même au premier quart du XXIe siècle, est inscrite l'expression « pacificateur du Sahara ». Pacificateur, c'est une notion éminemment colonialiste. Et donc, voilà, ce genre de choses existe toujours. Quant au nom des lieux, il est assez tragique, parce que bien sûr il y a des noms qui peuvent apparaître. Il y a un boulevard d'Algérie par exemple, ou là une rue de Tunis, ça peut apparaître comme relativement neutre, mais il y a également une rue de la Gouate qui est un des grands massacres de l'époque de la conquête, 1856, je vous dis ça de tête. Et la nomination de la rue de la Gouate a été faite immédiatement après, dans les années qui ont suivi. Il y a une rue de Sfax. Sfax, c'est aujourd'hui pour le français moyen un lieu de détente touristique au sud de la Tunisie. En réalité, ça a été en 1881, au moment de l'instauration du protectorat, un lieu d'intense répression contre la population soulevée. Et donc, la rue de Sfax est un hommage aux conquérants sanguinaires de la Tunisie. Donc voilà, tout cela, comme vous dites, aujourd'hui nous apparaît comme des morceaux d'histoire, mais à l'époque c'était une proclamation politique de fierté d'avoir soumis des populations.
Une manière d'ancrer dans Paris cette histoire coloniale, ce passé colonial, et comme vous le dites aussi, il y a le Parisien, le nez en l'air, qui cherche une rue, puis qui voit rue de Sfax, il peut pas s'imaginer ce que vous venez d'évoquer historiquement. Parce qu'il n'y a pas de sous-titres dans ces rues, alors que d'autres, on va avancer dans le temps sur ces plaques parisiennes contemporaines, avec des grandes figures aussi importantes, de la diversité, on va le dire comme ça, mais qui sont en réalité des grandes figures importantes. On marque bien qui était Frantz Fanon, qui était etc. Donc ça, c'est important de dire que plus on avance dans le temps, plus les nouvelles rues dans les nouveaux quartiers parisiens vont porter des noms qui vont être plus contemporains.
Oui, alors effectivement, s'il y a un domaine dans lequel l'arrivée de la gauche au pouvoir parisien, au pouvoir municipal, a changé les choses, c'est effectivement une volonté délibérée de Monsieur Delannoy, le premier maire de gauche de la capitale, en tout cas au XXe siècle, une volonté délibérée d'inverser un petit peu la tendance et de dire, eh bien, écoutez, il serait peut-être temps également de dire qu'il y a eu de l'autre côté de la barrière coloniale, ou de la barrière esclavagiste d'ailleurs, des gens qui ont été soit des résistants indigènes, comme on disait à l'époque, colonisés, soit des anticolonialistes métropolitains. Et donc, il y a eu effectivement un effort systématique de cette nouvelle municipalité qui ne s'est jamais démentie depuis. Je pense par exemple à l'inauguration de la place de l'émir Abdelkader, derrière la mosquée de Paris d'ailleurs. Je pense à l'inauguration de la place du général de Bollardière et Monsieur Delannoy. J'étais présent ce jour-là, c'était très très émouvant. Monsieur Delannoy, à l'époque, avait ouvertement voulu que cette place soit face à l'école militaire. Donc c'est toute une symbolique.
Un mot sur cette personne que vous venez de citer, parce que pour les auditeurs c'est important.
Bien sûr, le général
de la Bollardière
a été le seul officier général, en tout cas je dis bien général puisque d'autres officiers l'ont fait également, mais le seul officier général qui s'est élevé contre la pratique de la torture, et il a été condamné à des arrêts de rigueur. Donc c'était la preuve d'un grand courage à une époque où tous les généraux français, sous la responsabilité, ne l'oublions jamais, des gouvernants, la 4e et la 5e République, mais tous les généraux français soit l'ont justifié, soit l'ont pratiqué.
Je reçois ce dimanche matin Alain Russio, il est historien, vous l'aurez compris, et il vient de publier Paris colonial et anticolonial, promenade dans la capitale, une histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce livre vient de paraître aux éditions Maisonneuve et Larose. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Alain Russio, qui est co-auteur avec Marcel Dorigny et qui nous parle de Paris colonial et anticolonial, promenade dans la capitale, une histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce livre vient de paraître aux éditions Maisonneuve et Larose. On n'a pas encore parlé de ce travail minutieux dont vous nous avez développé dans une première partie un certain nombre de rues. Mais comment vous avez procédé pour faire cette prospection de ces rues, nommément de ces statues, de tout ce qui porte ce passé colonial dans le Paris aujourd'hui? Parce que je le rappelle précisément, l'ouvrage est vraiment précieux. Du premier arrondissement au 20e arrondissement, il y a les musées, il y a les statues, toute cette visibilité de ce passé colonial ancré dans la capitale.
Bien, Marcel Dorigny et moi, nous sommes glissés dans la peau de ce qu'un romancier trop oublié d'ailleurs, qui s'appelait Léon-Paul Fargue, appelait le piéton de Paris. Et j'avoue que c'était un moment particulièrement agréable du travail, soit chacun de son côté, soit souvent ensemble, de nous promener dans Paris, de chercher les traces, effectivement. Alors on partait pas complètement dans l'inconnu, bien sûr, on avait à chaque fois peut-être des premiers points de repère, et de constater effectivement qu'il y avait toujours ces traces. Et puis bien sûr, à côté de ça, il y a les recherches classiques d'un historien, c'est-à-dire on a, en particulier sur Internet, il y a évidemment, c'est une mine de renseignements considérable. Et donc nous sommes arrivés effectivement à cette constatation que l'histoire de l'esclavage et de la colonisation était absolument omniprésente dans la ville de Paris. Et donc il suffit parfois de lever le nez pour voir soit un nom de plaque de rue, soit parfois des plaques de par exemple, on sait aujourd'hui où est décédé le maréchal Bugeaud, donc j'imagine qu'on va en parler, bon, en dehors de l'avenue Bugeaud elle-même. Donc il suffit de... On sait où habitait le gouverneur Félix Éboué, par exemple. Donc voilà, ce genre de choses qu'on a notées. Et je pense, puisque tout à l'heure vous parliez d'un certain nombre de gens qui ne pouvaient pas imaginer, lorsqu'ils passaient rue de Sfax, par exemple, qu'il y avait là l'origine d'un drame, je pense que notre livre, justement, devrait servir à ça. J'espère qu'il servira à ça. C'est sa fonction, je dirais, en dehors même de mon travail d'historien, c'est la fonction citoyenne d'un tel livre, c'est de donner des informations très, très précises sur les événements.
Pourquoi elles s'appellent
comme ça. Et à la fin du livre, d'ailleurs, il y a un index biographique de toutes les personnalités qui sont citées. Et à chaque fois, on parle, bien sûr, il y a une avenue Jean Jaurès. On va pas reparler de toute la biographie de Jaurès. Mais par contre, ses prises de position sur la question coloniale sont citées. En particulier, son opposition à ce qu'on appelait la guerre du Maroc, là, au moment où la France a conquis le Maroc avant l'instauration du protectorat. Donc Victor Hugo, par exemple, a eu également des positions, d'ailleurs, qui ont alterné, qui ont varié dans le temps. Mais Victor Hugo a eu des prises de position, certaines très pro-colonialistes, voire racistes, et certaines courageuses. Donc il faut montrer toutes les nuances.
Il est un lieu très symbolique à Paris, qui se trouve à la Porte Dorée. C'est le musée de l'histoire de l'immigration, qui était auparavant le musée des arts africains et océaniens. Précédemment, qui était aussi une autre histoire de France, puisque c'était 1931 et c'était l'exposition coloniale. Ce grand bâtiment qui a la Porte Dorée, il est important parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, il prend une place importante parce qu'il y a là toute l'histoire coloniale de la France, de l'Empire colonial français. C'est-à-dire qu'au travers des fresques, au travers des fresques murales, des fresques extérieures sur le bâtiment, mais aussi intérieures, des peintures intérieures. Ça, c'est important aussi.
Bien sûr. L'exposition de 1931 a été la manifestation la plus éclatante de la bonne conscience coloniale française. Enfin, en tout cas, des autorités françaises, mais par-delà les autorités, beaucoup d'intellectuels et une grande partie de la population. Il faut regarder cette vérité en face. L'exposition coloniale a été visitée par 8 millions de personnes. Donc, à l'occasion de cette exposition, il y avait certains pavillons qui étaient éphémères, mais il y a eu également un bâtiment immense qui s'est appelé tout simplement le Palais des Colonies. Et donc, qui était effectivement l'exaltation. Il y a la fresque extérieure, les peintures intérieures, le salon Paul Reynaud, le salon Lyautey, enfin tout ça où on voit véritablement l'idéologie coloniale à l'état pur, je dirais. L'homme blanc civilisateur, les indigènes qui sont soit soumis... soit au travail, mais des travaux qui sont en général près de la nature. D'ailleurs, beaucoup d'indigènes sont représentés nus au milieu de la faune et de la flore. Donc, ils font partie plus de la nature que de l'humanité. La statue qui aujourd'hui est Porte Dorée, la statue était en réalité à l'origine en haut des marches du Palais des Colonies. Et c'est la France apportant la civilisation au monde entier. Donc, voilà, cette idéologie à l'état pur elle peut surprendre aujourd'hui parce que il est facile d'être anticolonialiste au XXIe siècle, mais à l'époque, elle reflétait les Français allaient en famille visiter l'expo, se prendre en photo. Les instituteurs étaient invités à emmener les enfants des écoles. La presse, ça, tout ce que je vous dis est facile à vérifier, puisque une grande partie de cette presse est numérisée sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale. Mais la presse a exalté quasiment toute la presse, à l'exception de l'Humanité, à l'exception de la presse libertaire, par exemple, mais qui était quand même très minoritaire. Mais lisez tout le reste de la presse, le Figaro, le Journal des Débats de l'époque, le Temps de l'époque, qui était le grand journal bourgeois de l'époque. Tous ces gens-là parlaient des braves indigènes qui étaient reconnaissants de l'apport civilisationnel de la France. Donc voilà, c'est marqué.
Et c'est encore présent, puisque vous le soulignez très bien, Alain Russio. Si hier, les gens venaient en famille voir l'exposition coloniale, renversement de l'histoire, aujourd'hui, les gens vont en famille au musée de l'histoire de l'immigration.
Oui,
et donc, et peuvent voir ces peintures dans le grand hall, et puis cette bâtisse qui, à l'extérieur, a des hautes fresques qui symbolisent aussi tout ce passé colonial.
Et d'ailleurs,
c'est important qu'on aille voir aujourd'hui.
Bien sûr.
Justement, ce bâtiment pour rappeler.
C'est tout à fait heureux que ça ait été conservé, puisque ça montre ce pan de l'histoire. Je vous signale d'ailleurs qu'en dehors des fresques elles-mêmes, sur le flanc gauche du musée aujourd'hui de l'immigration, il y a la liste de tous les Français qui ont participé, et ça commence aux croisades. Ça commence à Godefroy de Bouillon, et ça va jusqu'aux années 30, puisque ça a été fait en 1930.
À proximité d'ailleurs de ce musée de l'histoire de l'immigration, il doit y avoir dans le parc, c'est le bois de Vincennes, on n'est pas loin du bois de Vincennes, oui. Il y a encore des bâtiments, hein, qui sont pas des bâtiments, mais il y a un pavillon chinois, un pavillon asiatique qui existe
tout à fait.
Encore.
Il y a encore un certain nombre de bâtiments qui ont été préservés. Oh. Et il y a en face du musée de l'immigration une fresque à la gloire de la colonne marchand, qui était la colonne qui avait voulu traverser l'Afrique d'ouest en est et qui avait été bloquée par les Britanniques à Fashoda. Et donc là aussi, c'est de l'idéologie à l'état pur, c'est-à-dire qu'on voit les Blancs qui marchent devant, les Noirs porteurs quasiment nus qui sont derrière, gardés par qui ? Gardés par un autre Noir qui lui est en uniforme et qui a un fusil. Donc on ne peut pas dire que les historiens d'aujourd'hui ont inventé quoi que ce soit, puisque
il suffit de
regarder.
Alors justement, quand on va au Trocadéro et qu'on est sur la place du Palais de Chaillot, on s'aperçoit qu'il y a un bas-relief qui est important aussi, qui est un bas-relief qui raconte l'art d'Indochine. Là, c'est, on est passé de cette exposition coloniale à un autre temps, mais c'est important aussi de souligner qu'il y a des fresques, des hauts-reliefs, des bas-reliefs qui symbolisent toujours ce passé colonial dans l'art parisien.
Bien sûr, ça effectivement au palais de Chaillot, à la Cité universitaire, dans le jardin Montsouris, par exemple, dans le parc Montsouris, pardon, il y a également un monument à la gloire de la colonne Flatter, etc., etc. Donc oui, dans le recensement que nous avons fait avec Marcel Lerigny, il n'y a aucun arrondissement qui soit épargné par une présence, quelle qu'elle soit,
du passé colonial.
Du passé colonial. Et alors, j'ajoute, et anticolonial. Par exemple, nous citons dans ce qui s'appelle aujourd'hui la place du colonel Fabien, qui était naguère la place du combat, avait été organisée la contre-exposition coloniale, qui était une association entre les communistes et les surréalistes. Cette contre-exposition coloniale a été un échec populaire absolu. Donc, on pense qu'il y avait à peu près de l'ordre de 5 000 visiteurs contre les 8 millions qui ont visité l'expo coloniale. Mais c'était un marqueur, si vous voulez, de la protestation. C'était un témoin que tous les Français ne sont pas tombés dans l'idéologie coloniale. Bon, fort heureusement, il y a même un certain nombre d'intellectuels. Je pense à André Gide, André Violis, André E. Violis, pour l'Indochine. Enfin, des gens comme ça. Albert Londres, des Georges Simenon, il y a un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains qui ont protesté à l'époque, et les surréalistes dont j'ai parlé.
On va avancer dans le temps historique et politique justement par rapport au fait qu'on nomme des rues qui soient plus dans une actualité, dans une temporalité qui nous est plus proche. Alors vous doutez qu'à Beurre FM, on va s'arrêter sur le 17 octobre 61 puisque c'est Merci. Une mémoire importante de cette histoire de l'immigration algérienne, mais pas que, parce qu'on on dit toujours que c'est une histoire de France, c'est pas qu'une histoire d'Algériens, mais en tout cas, c'est important. Et a été ancrée la mémoire du 17 octobre 61 à Paris. C'est-à-dire que sur le pont Saint-Michel, aujourd'hui, on peut voir une plaque qui a évolué, vous allez nous en parler, mais qui a été aussi, on va aborder l'aspect politique dans une troisième partie de notre rencontre, mais là, elle a été vraiment une volonté politique. On va s'arrêter sur cette date. Le 17 octobre 61, la manifestation des Algériens à Paris est visible de par le combat de militants et militantes, mais aussi de par le combat politique.
Bien sûr.
Pour qu'elle soit visible, cette date, pour l'histoire de France.
Bien sûr. La mémoire du 17 octobre 61 a elle-même une histoire. Bien sûr, un coup de chapeau évident au passage à Jean-Luc Enaudi. Jean-Luc, avec qui beaucoup d'entre nous ont travaillé et plus que respecté. Et Jean-Luc a effectivement été un éveilleur. Et puis, effectivement, il y a eu les associations. Je pense d'ailleurs, il est bien possible que nous étions ensemble à la première vraie manifestation qui était le 17 octobre 91. Je me souviens de cette date puisque c'est à ce moment-là qu'enfin est ressortie l'histoire véridique du 17 octobre 61. Et les politiques s'en sont emparés. Effectivement, le fait que à la mairie de Paris, il y avait Monsieur Dallanoë avec sa majorité de ce qu'on appelait à l'époque de l'Union de la Gauche, a fait que, après un combat politique âpre, le Conseil de Paris, les débats sont aujourd'hui accessibles très, très facilement, il y a eu véritablement une levée de boucliers, toute remise en cause de l'État français, parce que c'est le 17 octobre est un crime d'État, toute remise en cause de l'État français, bien sûr, irritait une grande partie de la droite, et au sein de cette droite, les gaullistes, ne pas oublier, bien sûr, la responsabilité de Michel Debré et du général de Gaulle dans les massacres du 17 octobre 61.
Alain Russiot est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin. Nous parlons du Paris colonial et anticolonial. C'est le titre de son livre qui vient de paraître aux éditions Maisonneuve La Rose. On le retrouve dans un instant et nous allons poursuivre cette mémoire du 17 octobre 61 avec vous, Alain Russiot, dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Beurre FM et ses voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Alain Russiot et nous parlons de Paris colonial et anticolonial, promenade dans la capitale, une histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce livre vient de paraître aux éditions Maisonneuve et La Rose. Et nous parlions de la visibilité de cette commémoration et c'est de cette inscription du 17 octobre 61, une inscription politique dans le Paris avec cette plaque sur le pont Saint-Michel qui a été rehaussée d'une très très belle installation d'ailleurs quelques années plus tard, puisque on va le rappeler rapidement, ce souvenir qu'elle a été, vous avez rappelé le houleux dans l'hémicycle de la mairie de Paris par rapport à l'opposition qui tenait pas, il y avait des nostalgiques de l'Algérie française qui ne voulaient pas de cette plaque sur Paris, mais en tout cas elle a été votée et la plaque a été cassée, brisée à deux reprises et la troisième ne pouvant plus être brisée puisqu'elle a été rehaussée d'une très très belle installation avec
des silhouettes, oui.
Des silhouettes qu'on voit d'ailleurs en très belle photo dans votre livre. Mais il y a aussi d'autres mémoires importantes de cette période de la guerre de libération, je l'appellerai ainsi évidemment.
Dans ce
Paris, c'est Charonne, c'est Maurice Audin, la mémoire de ces histoires-là. Parlez-nous de ce temps Algérie dans le Paris aujourd'hui qui était vraiment une démonstration très politique pour le coup.
Oui, bien sûr. Effectivement, c'est deux autres points d'ancrage importants de la mémoire anticolonialiste de la ville de Paris, à savoir la manifestation de Charonne du 8 février 62, au cours de laquelle 7 manifestants ont été tués par la police. On sait aujourd'hui qu'il y avait une volonté de tuer pas forcément de cibler telle ou telle personne, mais en tout cas une volonté de réprimer très très violemment une manifestation, donc une manifestation en l'occurrence de partisans français de la paix. Et donc il y a aujourd'hui autour du métro Charonne effectivement une place du 8 février 1962. Il y a une l'inauguration d'une plaque à la mémoire de Maurice Audin tout de suite à côté de Maubert, dans le quartier, donc, au quartier latin. Et là aussi, j'étais présent le jour de l'inauguration avec M. Delanoé qui avait fait un discours. Il y avait Josette Audin, il y avait Pierre Vidal-Naquet, il y avait Henri Allègue. Et voilà, c'était tout à fait...
qui ne sont plus là, mais qui sont...
Qui montrent la diversité, d'ailleurs, politique de l'opposition à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et donc, il y a également rue de la Mare, dans le 20e, une très très belle fresque à la mémoire de Maurice et Josette Audin. D'ailleurs, un certain nombre de municipalités, là on quitte Paris un petit peu, mais par exemple, la semaine dernière, il y avait à Nanterre l'inauguration d'une plaque de la rue Josette et Maurice Audin. Et je crois qu'il y a un processus qui est commencé de nommer partout. Il y a des places Maurice Audin qui avaient été décidées avant le décès de Josette, qu'il y ait désormais des noms, que le nom de Josette, évidemment, qui a consacré sa vie à défendre pas seulement la mémoire de son mari, mais la vérité historique, que Josette soit également honorée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'endroits comme ça où, fort heureusement, les noms des combattants. Et je pense également à l'inauguration de la plaque à l'intérieur du cimetière du Père Lachaise à la mémoire des victimes de l'OAS. Ce n'est pas si fréquent. Hein, les crimes de l'OAS aujourd'hui sont parfois soit oubliés, soit parfois dans le sud de la France, vous le savez, exaltés. Donc, ce sont des combats contemporains. Moi, en ce qui me concerne, mais ceux qui me connaissent le savent, je n'ai jamais séparé ma qualité de citoyen avec celle de mon travail d'historien. On ne peut pas dissocier les deux.
Vous avez cité Bugeaud tout à l'heure, mais on va s'y arrêter parce qu'il sera l'exemple, entre guillemets, de ce qu'a été la démarche pour certains, pour d'autres, pas de cet avis-là, mais de déboulonner, de débaptiser ces figures du passé colonial. Bugeaud a une grande place dans la ville de Périgueux, par exemple. Hein, oui, vous savez, une grande statue. Même le parking s'appelle Bugeaud, l'avenue s'appelle Bugeaud, la place s'appelle Bugeaud, etc. Donc il y a des.
C'était son fief. Il était dans le Périgord.
Pardon.
Il était dans le Périgord, donc.
Qui est dans le à Périgueux parce qu'il était. Oui. Il a été admiré par tous les paysans, parce que c'est moi, je suis allé à Périgueux justement avec un collectif qui s'opposait qui demandait. Pas la débaptisation d'ailleurs, déboulonner la statue, mais qui voulait que soit ancrée la personne qui était Bugeaud dans la guerre, justement, dans la guerre de libération, dans la guerre d'Algérie, parce que de ce point de vue-là, on peut l'appeler guerre d'Algérie. Donc il y a quand même certains qui pensent à déboulonner ou renommer précisément qui étaient ces figures coloniales, ou alors débaptiser. Quel est votre avis là-dessus, Alain Russiaux?
Alors,
en tant qu'historien, en tant que citoyen,
ben voilà, je suis un peu.
Il y a les deux, parce que l'historien aurait. Voilà,
je suis un peu partagé. Bon, vous avez dû apprendre que la mairie de Paris a décidé de débaptiser l'avenue Bugeaud, donc dans le 16e arrondissement. En tant que citoyen, j'en suis partisan et je serai présent une fois de plus le jour de je pense que c'est cet été, je crois, qu'il va y avoir la débaptisation officielle. Mais en tant qu'historien, je signale, je donne de leçons à personne, je signale qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres sabreurs, en particulier la conquête de l'Algérie, qui sont encore aujourd'hui honorés. Il y a une rue, la Mauricière. Charles-André Julien disait que la Mauricière était le pire des conquérants. Et pourtant, il y avait de la concurrence dans ce domaine. Il y a une rue du général Négrier. Qui a été également un des conquérants de l'Algérie. cité par Victor Hugo, s'il vous plaît, lorsqu'il parlait des atrocités du général Négrier. C'est dans les choses vues, dans ses carnets. Les atrocités du général Négrier. Il a toujours sa rue. Donc, si on entame ce processus, il faudrait effectivement parler de bien d'autres conquérants. Il y a, à Port-Royal, en haut du boulevard Saint-Michel, quittons un petit peu le Maghreb pour quelques minutes, il y a une statue de Francis Garnier, qui était le conquérant du Tonkin. C'est lui qui a ouvert les portes de la ville de Hanoï à la colonisation, hein, qui a en fait ouvert les portes à un siècle de malheur pour le peuple vietnamien. Donc, sa statue trône en haut du boulevard. C'est une statue immense, d'ailleurs. La plupart des gens ne savent pas qui c'est.
Je vois très bien cette statue, mais je ne sais pas qui c'est.
Ben voilà, Francis Garnier, vous vérifierez. Moi, je suis partisan plutôt, effectivement, du travail pédagogique qui a été fait à Périgueux, d'ailleurs, notre collègue Olivier Lecourt-Grandmaison, qui avait inspiré un petit peu le texte explicatif. Il s'agit pas de faire une polémique et de mettre une contre-histoire à l'histoire officielle. Mais il s'agit tout simplement d'expliquer. Notre livre, j'espère, servira à ça. Mais rien n'empêche de dire qu'on pourrait systématiquement, j'ai parlé du général Lapérine, que veut dire pacificateur du Sahara ? Pacification, ça a une signification, l'histoire coloniale. Ça veut dire massacre, de population. Donc, si on entame ce processus, moi je suis prêt à participer si un jour la mairie décide d'avoir une commission d'historiens, commission pluraliste. Il ne s'agit pas de n'avoir que des historiens anticolonialistes forcenés, mais en tout cas de confronter les points de vue, de se mettre d'accord sur un texte explicatif de quelques dizaines de lignes. Ça a été fait à Bordeaux sous des noms de rues de négriers, enfin de commerçants du commerce triangulaire. Ça a été fait à Marseille par une association qui s'appelle Ancrage, je crois. Donc ce sont des choses extrêmement positives. J'ajoute que revenons un peu sur l'histoire de l'esclavagisme. Colbert, on adore haïr Colbert à cause du code noir, mais personne ne parle de son patron, qui s'appelle Louis XIV. Voilà. Est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Louis XIV, place des Victoires, celle sur le terre-plein du musée du château de Versailles, etc.
Vous êtes passionnant, Alain Russier. On aurait longtemps encore à vous entendre sur cette histoire. On aura l'occasion de se revoir. Je rappelle que votre livre, Paris colonial et anticolonial, Promenade dans la capitale, une histoire de l'esclavage et de la colonisation, vient de paraître aux éditions Maisonneuve et Larose. Alors, pour votre information, j'ai le plaisir de dire aux auditeurs, aux auditrices et à vous-même que le 20 avril prochain va être nommé un square dans le 20e arrondissement à la mémoire d'Idir, le chanteur que chacune connaisse à l'antenne. Et c'est important parce que il rejoint comme ça dans ce Paris les chansonniers qui font Paris, la littérature et tous ces hommes et ces femmes qui sont l'histoire de Paris dans sa diversité. Je voulais terminer là-dessus, mais avant, un livre en cache un autre. Vous êtes donc aussi là dans un prochain ouvrage qui va paraître.
Ma réputation me précède, effectivement. Je viens d'achever, il se trouve que le livre sur Paris colonial a été fait en plusieurs années, je ne reviens pas là-dessus, mais je viens d'achever une histoire de la première guerre d'Algérie, celle qui commence avec la conquête, donc où c'est tristement illustré entre autres Bugeaud, et que je fais achever en 1852 au début du Second Empire, parce qu'après il y a eu d'autres événements, la révolte kabyle de 71 par exemple, mais bon, comme le livre sera déjà épais, donc il paraîtra ce printemps aux éditions La Découverte. Voilà, je l'annonce.
Eh ben, c'est une occasion de se revoir à nouveau.
Avec
pour
plaisir.
Parler de ce combat anticolonial. Parce que vous avez rappelé il y a un instant que vous êtes partagé sur l'histoire et puis sur. Mais être historien, c'est aussi être. Enfin, vous êtes citoyen et historien ou vous êtes d'abord citoyen et après votre.
Chronologiquement, oui, j'étais citoyen avant, puis ensuite, effectivement.
Mais l'historien doit se démarquer du citoyen, quand même.
Oui.
Oui, dans un travail précieux de recherche et de.
Je considère qu'on peut appartenir grosso modo à une famille politique, mais je considère que pour un historien, il ne doit pas y avoir de secret de famille. Voilà, pour résumer les choses, toute vérité qui est découverte doit être exposée. Et c'est le, je crois que c'est l'ABC de l'honnêteté intellectuelle et donc du travail d'historien. Et donc moi je ne me vante pas. Je pense que l'immense majorité de mes collègues ont la même démarche. Mais je crois qu'il faut toujours le réaffirmer. Ceci dit, le témoin objectif, y a-t-il des journalistes neutres? Non, bien évidemment. Il suffit en ce moment d'écouter en particulier sur certains faits très contemporains. Il suffit de les écouter pour savoir qu'ils ne sont pas neutres. Et donc, je ne suis pas neutre, mais je vise à une certaine honnêteté intellectuelle.
Merci Alain Russio. Paris colonial et anticolonial, c'est le titre de votre livre, je le rappelle. Il vient de paraître aux éditions Maisonneuve et La Rose. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.